sur 95,8. Les premières journées minières du Katanga débutent aujourd'hui, ce vendredi 30 mai, dans la ville cuprifère. Elles vont se clôturer demain à samedi. Pendant 2 jours, les entreprises minières vont exposer leur politique sociale de développement communautaire. Ces assises sont organisées conjointement par le gouvernement provincial, la Fédération des entreprises du Congo Mines et 2 ONG internationales. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement après ces journées minières? Qu'est-ce que la population katangaise espère de ces journées? Nous allons justement suivre le point que va nous faire dans un instant Jean Gandou, qui se trouve en ce moment quelque part en train de suivre ces journées minières. Jean Gandou, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouvez exactement et quelle est l'ambiance qui y règne?
Nicole Dakar, je me retrouve plus précisément au musée de Lubumbashi où se tiennent ces journées portes ouvertes minières du Katanga. Et l'ambiance est une très très bonne ambiance, d'autant plus que beaucoup de gens ont répondu à l'invitation lancée par les organisateurs de ces 2 journées, Nicole.
Mais est-ce qu'il y a une forte mobilisation des entreprises minières?
Bah, il faut dire que compter à peu près, enfin, plus de 20 entreprises minières qui sont présentes ici au musée de Lubumbashi. Chacune est là exposant ce qu'elle est en train de faire. C'est vous dire que, bon, le Katanga a plus de 200 entreprises minières, mais celles qui sont affiliées à la Fédération des entreprises du Congo sont une vingtaine. Et la vingtaine là est présente ici au musée de Lubumbashi.
Alors, dans quel cadre ces journées minières sont-elles organisées? Qu'est-ce que les organisateurs préconisent pour une meilleure applicabilité des recommandations de ces journées?
Il faut dire, Nicole Dakar, que très souvent, la population, le choix de la population katangaise est toujours dit qu'il y a beaucoup d'entreprises minières ici à Lubumbashi, au Katanga, mais elle ne voit pas son vécu quotidien changer. Voilà pourquoi les organisateurs ont tenu à ce que ces assises puissent avoir lieu. Et je crois également que d'ici la fin de ces assises, il y aura le code d'éthique pour tous les mining qui sera donc publié. Voilà pourquoi je voudrais sans plus tarder, Nicole Dakar, que nous puissions suivre Eric Monga de la FEC.
Concrètement, tout ce que nous avons compris, c'est un rôle moralisateur. Un rôle moralisateur qui encadre par la FEC. Parce que d'ici là, il y aura un code éthique qui sera lancé, sera peut-être ça l'innovation qui sera sur cette journée porte ouverte. Il y aura un code éthique où les sociétés minières vont souscrire pour justement dire qu'ils appliquent le code minier et qu'ils vont observer le code minier. Il y a deux volets dans ces portes ouvertes. Il y a l'exposition des mines où les miniers parlent d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire montrer comment est-ce que suivent les recommandations du code minier. Et d'autre part, il y a la table ronde sur les obligations environnementales qui sont contenues dans leurs études environnementales sur lesquelles, justement, s'il y a d'autres recommandations, je crois que quelque part là, les entreprises minières, déjà, en fait cette bonne foi de montrer ce qu'elles font, suivront et appliqueront toutes les recommandations par la transparence.
Oui, on verra si réellement ces entreprises minières vont appliquer, vont signer en fait le code éthique hein, qui les amènera à appliquer le code minier. Mais comment, entre-temps, Jean Gandou, la population katangaise a-t-elle accueilli ces journées minières?
Tout à fait sceptique, je l'ai dit tout à l'heure, cette population voit beaucoup de camions partir de Lubumbashi dans la frontière de Kasumbalesa pour prendre le chemin de l'Afrique centrale et même de la vie avec les minéraux, mais son vécu quotidien, elle ne change pas. Et il y a le scepticisme qui a donc été domicile dans le chef de la population. Encore plus, cette population se plaint de temps à autre de voir son environnement surtout gâché par les entreprises minières. Pour en savoir un peu plus, Nicole, nous allons suivre cette jeune fille qui nous parle de ce qu'elle compte espérer de ces journées minières.
Maman, j'habite Lubumbashi. Ça fait 7 ans que je suis à Lubumbashi, mais à Lubumbashi, il y a trop de maniques. Il y en a vraiment beaucoup. Mais on ne trouve pas leur utilité dans la ville de Lubumbashi. Sur le plan social, en tout cas, les maniques n'aident pas la population. Vous allez même aider le gouverneur. Comme il y a d'autres quartiers ici, il n'y a pas de courant. Précisément là où ma grand-mère habite, à côté du campus, vers le camp Kassapa. Donc elles ont vraiment de problèmes de courant, on doit acheter des transports. Ils doivent aussi aider le gouverneur. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Donc ils doivent vraiment aider le gouverneur. Il y en a beaucoup vraiment qui font rien dans les Katangas. Très peu de manies font quelque chose. Sur 100%, je peux dire même 85%, n'aident pas la population.
Les mining ne font rien, ces mining, autrement dit ces entreprises minières, n'aide pas la population katangaise. Ça, c'est le point de vue d'une jeune fille. Peut-être que vous partagez également son point de vue, raison pour laquelle nous vous associons à réagir avec des SMS au 081 070 2050. Mais puisque aujourd'hui la population critique les actions des mining dans la province sucrière, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les actions réalisées par ces entreprises minières, Jean Gando?
Nicole, il faut dire que les actions que ces entreprises minières sont en train de poser à Lubumbashi ne sont pas très très prévisibles, d'abord, considérant le nombre de ces entreprises minières par rapport à celles qui osent faire quelque chose. Tout à l'heure, là, Nicole, il y a le gouverneur de la province qui venait de prendre la parole au cours de ces assises et qui a remercié certaines entreprises minières qui ont donné un peu de leur argent à la Société nationale d'électricité, la SNEL, ainsi qu'à la Régie des eaux pour que la desserte en eau et en électricité puisse être améliorée tant soit peu. Mais il faut dire que dans le gros, le travail que font ces entreprises n'est pas encore totalement visible. Ça, c'est la notion. Il y a une autre entreprise de la Roissy qui est en train d'aménager la route qui mène du centre-ville vers la Roissy. Et cette route a été faite il y a quelques temps, mais bon, il y a eu des nids de poule et la reprise s'est résolue de recommencer ces travaux. Mais pour en savoir un peu plus, Nicole, quand nous allons suivre, Gérard Tambo qui nous explique que tout le travail fait par la SOMICA et dans le cadre de l'eau et du courant électrique dans le quartier qui sont avoisinants à cette entreprise minière.
Bon, en ce qui nous concerne, nous travaillons depuis longtemps sur le développement social de la population, non seulement environnante, mais aussi sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Hein. Les domaines d'intervention sont divers. Hein. Il y a d'abord dans le domaine de l'eau, où nous aidons les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, notamment en faisant des puits filtrants. Nous l'avons fait à Kambo. Nous avons aidé à réhabiliter la sous-station de la Roissy. Nous avons fait depuis à la Roissy même, nous avons fait depuis à la Katouba, sur la route du Kati, etc. Donc, dans le domaine de l'électricité aussi. C'est vrai que l'eau c'est la vie, mais l'électricité c'est le progrès. Alors là aussi, nous avons fait beaucoup d'interventions. Bon, le quartier qui nous environne aujourd'hui a l'électricité un peu grâce à nous, notamment grâce aussi à la Société nationale de l'électricité. Nous comptons toujours en accord avec la SNEL. Nous sommes en train de construire une sous-station électrique. Notre besoin est de 10 MVA, mais nous avons dimensionné la sous-station à 15 MVA. Les 5 MVA autres seront remis en moyenne tension à la SNEL pour qu'elle puisse desservir la population. Nous allons aussi aider la SNEL à pouvoir construire un réseau viable.
Oui, on retient que Sominki contribue au développement de la province du Katanga, puisque nous avons suivi tout à l'heure Gérard Ntamboué qui nous a dit, c'est Sonika, hein, on corrige, Gérard Ntamboué qui nous a dit que non, on appuie tout de même la SNEL et puis la Régie des eaux. Mais comment les ONG du droit de l'homme réagissent-elles par rapport à cela?
Nicole, il faut dire que les ONG du droit de l'homme jettent souvent aussi des boulets rouges sur les entreprises minières, notamment en ce qui concerne la détérioration de l'écosystème, mais aussi l'environnement qui n'est pas très 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 bon. Et il y a tout le temps, il y avait une discussion ici où les entreprises minières avaient pointé du doigt accusateur certaines entreprises pour avoir pollué l'eau. Et là, Nicole Ngaka, si nous pouvons nous en tenir à la lutte contre la corruption et la fraude, qui pour sa part, salue l'initiative de ces journées minières, mais bon, qui estime également que la population vit misérablement. Et pour la LICOF, les autorités doivent tout faire et trouver des voies et moyens pour soulager la misère de la population. Et pour ce faire, souvent donc Rachid Akida, qui est le président de la LICOF.
C'est la première fois que le gouvernement provincial vient d'organiser ce genre de forum. Et pour la population attend qu'il y ait des actes pratiques palpables pour l'intérêt, n'est-ce pas, de cette population qui n'a que trop souffert, parce que les mines, on les prend ici au Katanga, on exporte, n'est-ce pas, dans les pays étrangers, mais la population elle-même reste dans des conditions misérables, c'est-à-dire elle reste dans une pauvreté noire. Et donc, nous pensons que les autorités politiques, comme elles ont pris cette décision, n'est-ce pas, de réfléchir sur cette exploitation minière, je pense que la population doit trouver des voies et moyens comment soulager, n'est-ce pas, la misère de cette population. La population attend qu'il y ait des actions positives à leur endroit.
Donc là, c'était le point de vue de la société civile. Non, c'était plutôt le point de vue de la Licorne. Hein. Alors maintenant, on va suivre peut-être le point de vue de la société civile, Jean Granet. Est-ce que vous avez pu avoir également leur point de vue à ce sujet?
Évidemment, il faut dire que la société civile est en train de se battre. Donc, je voudrais absolument beaucoup de choses pour faire maintenant la négociation de ce contrat. Elle souhaite aussi qu'elle soit l'aide de la population parce que c'est une pour s'entendre dans cette pléiade. Alors, soit ça va plus important de son dossier.
La première des choses que nous voulions signaler, c'est que c'est une bonne chose d'abord que l'on puisse couvrir les activités minières auprès du grand public. Deuxièmement, ce qui nous importe le plus, c'est que nous savons qu'il y a tout un tas de revendications que la population a par rapport aux activités minières qui en fait ne leur profitent pas beaucoup. Le débat de fond reste la renégociation des contrats miniers tels que on l'a préconisé depuis très longtemps, de sorte que la société civile puisse aussi être comme l'œil de la population au moment de la renégociation de tous ces contrats, pour que finalement nous puissions connaître quel est l'intérêt que la population va tirer de la présence de ces entreprises, quand est-ce que la population peut donner son avis lorsqu'il faut délocaliser un village ou une agglomération. Il y a tout un tas de problèmes énormes qui sont des défis à relever dans l'exploitation minière.
Voilà, on va maintenant donner la parole à nos invités. Jean Grando, je sais que vous êtes sur place, toujours en train de couvrir ces journées minières. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à ce sujet?
Oui, nous sommes d'accord. Il faut dire que ce moment-là, que je ne sois en direct sur les antennes de Radio Capi, il y a Monsieur Mouvezi qui prenait la parole. À l'Outrachi, il y a un phénomène. C'est-à-dire, il y a certaines populations qui estiment qu'il faut déopérer le lycée aux riches. Et je ne peux pas se faire de cette manière.
Non, on est désolé, on est obligé de couper cet entretien parce qu'on vous saisit plus très bien. On va donc donner la parole à nos invités. Hein. Jean-Gamy, si vous avez d'autres informations à nous donner à ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter. Merci beaucoup et à la prochaine.
La question sur les journées minières au Katanga, les journées portes ouvertes minières donc au Katanga. Avec Jean Gandou, nous avons fait les points, il nous a mis dans l'ambiance de ces journées. Mais c'est juste que nous recevons en ligne d'ailleurs notre invité Mumba Gama, ministre provincial des mines avec vous Nicole. Nous allons nous entretenir avec lui pour en savoir un peu plus sur tout ce qui s'est passé, parce que c'est même que là, il y a des discours qui viennent définis, on est presque à la fin de la manif.
Oui, M. Mumba Gama, en tant que ministre provincial des mines au Katanga, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment s'est passé concrètement ces journées minières?
Parce que nous venons de finir la première partie de la manifestation, à savoir l'ouverture de la table ronde spéciale sur la responsabilité des sociétés minières dans le développement social et communautaire du Katanga. Et nous allons commencer bientôt maintenant la rupture du ruban symbolique pour les portes ouvertes et la visite du stand de cette minière. Mmh. Alors, dans les premiers moments, nous avons eu quatre moments forts. Nous avons eu d'abord une présentation du directeur du musée qui a rappelé à tout le monde que le Katanga a une histoire qui date d'avant Jésus-Christ dans l'exploitation minière. Et à ce sujet, je crois que il a été suggéré que le Parlement puisse voter une journée où le Katanga aura affecté sa tradition minière. Et nous avons également entendu Monseigneur l'évêque de l'Église catholique qui a rappelé que les mines doivent être exploitées en tenant compte de la dimension de l'homme. Les mines doivent être faites pour que l'homme puisse évoluer et se valoriser. Oui. Nous avons également suivi un expert, M. Cabot, il a rappelé aux sociétés minières que dans les codes miniers, il y a des obligations qui les obligent à s'occuper du social et du développement. Notamment, il a rappelé une chose que souvent on ne met pas en exergue, c'est le programme de développement durable, le PDD. En fait, ce programme de développement durable, qui est une partie de l'étude d'impact environnemental, oblige les sociétés minières de concevoir et de prendre des engagements vis-à-vis des populations pour le développement des secteurs comme l'éducation, la santé, les infrastructures, la production, donc l'économie.
Oui.
Et autres. Ces engagements doivent être quantifiés en termes de chiffres et avoir même un calendrier d'exécution.
Oui, alors justement à ce sujet, nous avons eu plusieurs réactions. Nous savons qu'il y a au moins une vingtaine d'entreprises qui participent à ces journées minières. La population a fait quelques critiques, elle a relevé quelques critiques. Selon la population, on ne sent pas les actions sociales de ces mining dans la province du Kupri-Fère. Alors est-ce que on peut croire qu'après ces journées minières, il y a certaines recommandations qui vont être prises afin qu'on puisse ressentir réellement les actions des entreprises minières dans la province du Katanga?
Monseigneur, qui a représenté la société civile, a clairement dit que l'opinion dit que les sociétés minières ne font rien pour la population. Mais la SEC vient de le préciser en disant qu'il y a deux volets dans cette question du développement social. Le premier volet consiste justement à payer ce qu'il faut payer à l'État. Et les sociétés minières viennent de publier les chiffres qu'ils ont donnés au courant, qu'ils ont payés au courant de la semaine du mois de l'année passée. Ils ont contribué pour 1 milliard de dollars. Ce qui veut dire que la province aurait dû recevoir 40%, ce qui représente à peu près 10 millions de dollars. Et 10 millions, on ne les a pas reçus. Ce que les sociétés disent, elles font leur travail en payant la redevance minière, notamment les 10 millions. Mais il n'y a rien qui a été fait.
Mais alors ça va où?
Elles reconnaissent,
oui.
Elles reconnaissent aussi que d'autre part, chaque société doit avoir un plan social. Et c'est ça que nous allons découvrir.
Mais
chaque société va passer.
Monsieur Mbangama, il y a quand même un problème. Si ces entreprises reconnaissent qu'elles payent, où vont finalement les montants que ces entreprises versent à l'État presque chaque mois?
Oui, la population s'inquiète. Parce que quand les entreprises publiques, quand les entreprises minières disent avoir versé 1 milliard de dollars, la population a suivi. La population réclame que sa quote-part ne soit versée. Donc parmi les résolutions qui sont attendues, c'est une résolution pour dire les sociétés minières, elles payent et la population veut voir la quote-part de la province. Donc certainement, c'est une résolution qui sera prise pour dire les 40% dus à la province et qui doit être destiné au développement doit rester en province.
Oui. Alors là, une réaction d'un négociant qui nous suit parce que nous avons invité tout le monde à réagir. On va vous inviter justement, M. Mbangama, à suivre le point de vue de cet opérateur économique depuis Kolwezi. Suivez.
Je m'appelle M. Charles. Je suis négociant à Kolwezi. Je suis dans le domaine minier. J'achète le produit minier dans des carrières artisanales et je les vends dans des sociétés qui sont des contrats qui sont sur place à Kolwezi. On m'a question de savoir s'ils perçoivent les 100 000 dollars pour chaque société. Si j'ai travaillé à Sonica et je connais ce qui se passe, ils perçoivent 100 000 d'abord pour avoir l'arrêté ministériel. C'est ça. En plus, pour le social, on a déjà obligé encore pour les 100 000 à chaque société qui œuvre au Katanga. Mais là, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, parce que nous ne sentons pas vraiment l'apport de cet argent dans la vie sociale de la population. Parce que la raison est que cet argent, il sert pour améliorer la vie sociale de la population.
Mmh. Donc, on revient encore une fois sur ce que les entreprises minières versent à l'État congolais. Vous représentez l'État congolais, M. Mbangama. Qu'est-ce que vous faites de tout ce que les entreprises vous donnent?
Mais dans les codes miniers, il faut distinguer l'État congolais qui est là où vous êtes à Kinshasa et le gouvernement provincial. Parce que vous trouvez dans les codes, là où on décline, on dit clairement où doit aller l'argent. Notamment quand on dit que pour l'éventuel traitement, on paye 100 000 dollars. Les 100 000 dollars sont payés dans les comptes du trésor. Et c'est les trésors qui doivent restituer nous la province. Et donc, la réclamation que fournit le négociant, elle est valable et nous la soutenons parce qu'en fait, c'est négociant qui est fait partie de la population. Et nous qui sommes les gestionnaires de la population, nous disons, nous constatons que les sociétés payent. Mais cet argent est payé, mais la part qui doit revenir à la province pour l'investir dans le développement, cette part ne vient pas. C'est ça la problématique que nous avons.
Oui, Mbangama, vous êtes ministre provincial des mines au Katanga. Il y a eu des états généraux des mines qui ont été organisés le mois de mars dernier. Vous organisez les journées portes ouvertes. N'y a-t-il pas, disons, des journées portes ouvertes ne constituent pas un doublon pour les états généraux parce que toutes ces questions ont été abordées lors des états généraux des mines?
Non, je ne crois pas que ce soit un doublon, mais nous pouvons considérer cette manifestation comme étant une précision. les états généraux ont concerné, ont revisité, comme pour utiliser le vocabulaire en vogue, ont revisité l'application du code minier. Mais ici, nous sommes en train de nous occuper d'un volet spécifique, à savoir le développement social. Qu'est-ce que l'État fait pour le développement social du Katanga? Où sont situées la plupart des mines? Qu'est-ce que les entreprises minières font pour le développement du Katanga, là où elles opèrent? Voilà pourquoi
En vos propos, l'État congolais n'a pas posé des actions sociales au bénéfice de la population du Katanga. Ben alors, quelle a été la participation des sociétés minières à leur niveau? Également, la population se plaint, dit que finalement les actions ne sont pas visibles et au grand dam de la population.
Nous avons voulu ne pas répondre à la place des sociétés minières. Nous avons posé la problématique en disant qu'il y a un dynamisme très remarquable et très prononcé de la reprise des activités minières. Quand vous entendez les chiffres qui sont avancés en termes de production et de recettes réalisées, cela ne coïncide pas avec le développement social. Les infrastructures sociales au Katanga sont toujours en mauvais état. Alors, nous avons dit aux sociétés minières, venez que chacune des sociétés minières vienne dire à la population du Katanga ce que chacune d'elles a fait pour le développement social. Évidemment, il faut reconnaître qu'il y a des sociétés qui se sont investies dans les secteurs de l'énergie. Vous savez qu'il y a des sociétés qui soutiennent la semaine, il y a des sociétés qui soutiennent la réseau, il y a des sociétés qui sont impliquées dans la réfection des routes. Mais tout cela, si ça a été fait et que c'était insuffisant, chaque société doit venir dire ce qu'elle a pu faire et ce que nous attendons.
Oui, mais la population n'est pas dupe, hein, vous savez, mon Bagama. Il y a un auditeur qui nous dit que sur le plan social, les mining n'ont rien fait. Les petites interventions faites sont une mascarade. Elles apportent une pollution d'air et de l'eau. Les poissons meurent dans les rivières sans procès. Elles ravissent les concessions parce qu'elles ont de l'argent. Elles n'engagent que des journaliers, pas un CDI. Elles abîment les routes avec leurs engins. Il faut une revisitation du code minier et des contrats. Ça, c'est Georges depuis le Bombashi qui vous le dit, M. Mumbagama. Alors, est-ce que vous partagez le même point de vue que Georges?
En tout cas, les attentes de la population vont au-delà de ce que vous voulez décrire. Parce que les attentes de la population ont été exprimées dans le discours de Monseigneur l'évêque Rovelli, et ça allait au-delà, en parlant même de délocalisation, en parlant des églises qui sont délocalisées, des écoles, etc. Donc, il y a la problématique, l'inquiétude de la population, et c'est là qui est posée aux sociétés minières. Et nous attendons que les sociétés minières puissent y répondre. Nous ne voulons pas nous répondre à leur place. Oui. Le mission de notre gouvernement, c'est de voir les sociétés minières qui sont installées au Katanga, autant elles sont dynamiques pour produire, autant elles doivent contribuer à relever et à reconstruire la province.
Oui, Excellence, disons, la crainte réside au niveau de l'applicabilité de recommandations de ces journées, parce qu'on sait qu'on est habitué dans ce pays, on est presque habitué à organiser des assises, mais bon, les recommandations restent toujours des lettres mortes. Et quels sont les mécanismes que vous allez utiliser afin de récupérer ce que vous avez perdu?
Vous savez, il y a un principe dans la législation. Pour les chasseurs qui veulent que les lois qui sont conçues ensemble ont l'avantage d'être appliquées. Au cours de cette table ronde, nous mettons côte à côte les sociétés minières, l'État congolais et la société civile, la population. C'est un avantage du fait qu'on va se faire une critique mutuelle sans complaisance et faire des résolutions ensemble. Ces résolutions, on peut espérer qu'elles peuvent être appliquées.
Allô, M. Mumbagama, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis à votre écoute. Nous attendons voir dégager ensemble, de manière consensuelle, les déficits de l'application de la loi minière en ce qui concerne le domaine social et ensemble prendre des résolutions. Un exemple simple,
vous pouvez, en
la lecture du code minier.
Oui, excellent, parce que la
prévu de mettre sur pied un organe de concertation comprenant les ONG, les gouvernements locaux et les représentants de la population pour évaluer les réalisations en matière sociale. Cet organe n'a jamais été mis sur pied. Peut-être que ce sera une des premières résolutions où on va avoir un organe qui comprend les sociétés minières, l'État congolais ou la province, les autorités locales et les représentants de la population. Ce sera un début pour surveiller justement l'application
des recommandations. Alors, quelle sera la particularité de ce code d'éthique, l'éthique que vous allez proposer? Est-ce que ça va également tenir compte de codes miniers?
Nous restons dans les codes miniers, on ne peut pas aller en dehors du code minier.
On va faire le suivi pour voir si réellement tout ça sera appliqué, hein, monsieur le ministre. On va s'arrêter là, on va vous donner la parole peut-être après ces journées minières, hein, afin que vous puissiez nous donner d'autres détails.
On va faire une interview demain.
Oui.
Ok, merci beaucoup.
Allez, à la prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir, Nicole Nadon.